France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, l'Etna s'est réveillée et c'est spectaculaire. Le volcan sicilien est entré en éruption avec un nuage visible à 100 km à la ronde, un panache rosé de cendres qui s'est élevé au-dessus du sommet enneigé. Bonjour Jacques-Marie Bardintseff.
Bonjour.
Vous êtes vulcanologue, vous êtes allé sur l'Etna une petite dizaine de fois. Les éruptions de l'Etna sont toujours aussi impressionnantes ?
Ben oui, l'Etna est un volcan très actif, c'est un des plus actifs d'Europe. Il fait régulièrement des éruptions et l'éruption actuelle a commencé il y a plusieurs semaines, mais elle s'est intensifiée depuis avant-hier.
Et on a vu des cendres qui sont tombées sur la ville de Catane, le trafic aérien a été interrompu. Des habitants disent que c'est l'une des éruptions les plus effrayantes qu'ils aient vues. Mais pour autant, les autorités assurent que cette éruption n'est pas dangereuse. Comment ça se fait ?
Oui, c'est classique. Il y a ce qu'on appelle un paroxysme. Donc il y a eu une fontaine de lave qui est montée à 500 mètres de hauteur.
Quand même.
Et des oui, c'est impressionnant, mais c'est au sommet de l'Etna. Et il y a des projections de cendres qui sont retombées en partie sur l'aéroport de Catane qui a été fermé. C'est classique. L'aéroport de Catane est fermé régulièrement. D'ailleurs, moi, une année, j'étais allé sur l'Etna, je m'étais posé à Palerme. Enfin, l'avion s'était posé à Palerme parce que l'aéroport de Catane était fermé. Les gens ont été impressionnés parce que c'est vrai que cette éruption a été spectaculaire. Elle s'est passée en fin d'après-midi, le 16 février. Et donc, c'était le coucher du soleil. Donc, le panache a pris des teintes rouges effrayantes. Donc, ça a bien sûr un petit peu impressionné les gens. Mais ce qui s'est passé est classique. C'est paroxysme de l'Etna. Il y a des années, il y a 50 paroxysmes dans l'année. Donc c'est quelque chose qui est connu, qui est classique. Parfois même les laves montent à plusieurs kilomètres de hauteur, 3 kilomètres de hauteur. Donc c'est impressionnant ce qui s'est passé, mais ça reste classique pour l'Etna.
Classique, mais est-ce que ça lui arrive quand même d'avoir des éruptions qui seraient dangereuses pour la population, sachant qu'il y a quand même pas mal de monde qui vivent autour de l'Etna?
Oui, alors pour l'instant, depuis de nombreuses années, les éruptions sont sommitales. Donc, comme vous l'avez dit, l'Etna culmine à 3300 mètres de haut. Donc, les éruptions se passent au sommet. Il y a 4 cratères actifs à tour de rôle, surtout le cratère sud-est. Et donc, ça reste loin des personnes. Actuellement, c'est enneigé, donc c'est prend une teinte, des teintes étonnantes. Mais c'est loin des populations. Par contre, dans le passé, il y a eu des éruptions qu'on appelle latérales. Donc, la lave commençait à sortir sur les flancs de l'Etna à l'altitude de 1500 mètres. Et donc, ça atteignait des villages. Et en 1669, une coulée de lave a atteint Catane. D'ailleurs, on voit dans Catane encore les traces des coulées de lave. On voit des roches laviques dans Catane. C'est l'éruption fameuse de 1669 qui avait formé les Monti Rossi, donc deux cratères, deux cônes adventifs de l'Etna.
Comment se fait-il qu'il y ait une telle activité dans cette région ?
Bien, écoutez, il y a un réservoir magmatique qui est important. L'Etna est situé sur une faille. Il est très actif. Donc, le magma est régulièrement produit, il remonte. Il se stocke dans un petit réservoir sous l'Etna. Et quand ce petit réservoir est plein, ben, il déborde, il jaillit. Et c'est pour ça que c'est un petit peu intermittent. Donc, il y a ces paroxysmes qui durent quelques heures. Celui du 16 février a duré une heure seulement. Mais il y en a déjà eu un autre cette nuit, d'après mes collègues italiens de l'INVG. GV de l'Institut National de Géophysique et de Volcanologie, il y aurait eu cette nuit un autre paroxysme. Enfin, c'est quelque chose qui est à suivre, c'est les nouvelles qui tombent ce matin.
Et le Stromboli, qui est situé pas très loin, sur les îles Éoliennes, il fait partie de la même chaîne, il a les mêmes caractéristiques, il est tout aussi actif.
Alors, il est un peu différent parce que le Stromboli, il est sur un arc volcanique, ce qu'on appelle les îles éoliennes, dans lequel il y a également l'île de Vulcano, puis on a plusieurs autres, Salina, Filicudi, donc il y a plusieurs îles. Donc, il est également très actif depuis quelques semaines, mais le Stromboli, il est toujours actif. On l'appelle le phare de la Méditerranée, donc il est actif depuis quasiment 5 millénaires. Donc,
lui, c'est en permanence.
Mais différent, voilà.
Il est voisin, c'est comme une grosse marmite qui boue tout le temps, quoi, c'est ça.
Bien, voilà, oui, c'est même assez étonnant, on ne comprend pas comment un volcan qui est pourtant pas si haut que ça, il fait 1000 mètres de haut, puisse fournir autant de magma et puisse être aussi dynamique. Mais c'est vrai, le Stromboli fait partie des volcans les plus actifs du monde.
Je rebondis sur un mot que vous venez de dire, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas sur les volcans?
Bien sûr, il faut savoir que le magma, il prend naissance à moins 100 km. Donc quand on voit l'Etna qui mesure 3 km de hauteur, on voit 3 km qui émergent, mais en dessous il y a 100 km qui restent mystérieux. Alors bien sûr on a des appareils, mes collègues de l'INGV ont des sismographes qui scrutent l'Etna, qui le surveillent, donc c'est un petit peu une sorte de monitoring, de radio interne, mais pour voir comment le magma fonctionne, il faut prélever ses roches, mesurer la chimie des minéraux, des roches, notre travail de pétrographe, de pétrologie, de volcanologie. Donc c'est vrai que les volcans sont encore en partie mystérieux, même s'ils sont de mieux en mieux connus.
Et l'Etna en particulier, il est particulièrement étudié. Il y a des vulcanologues à temps plein qui travaillent sur ce volcan ?
Ah bah bien sûr, j'ai des collègues et amis à Catane qui le surveillent, donc en ce moment il est surveillé, donc il y a des gens qui se relaient toute la nuit à Catane, à l'Institut, avec pour surveiller des capteurs qui sont posés sur l'Etna, qui sont reliés par télémétrie à l'observatoire de Catane, donc mes amis italiens surveillent l'Etna nuit et jour en se relayant 24 heures sur 24, samedi, dimanche et jours fériés.
Et est-ce qu'ils sont capables de prévoir une éruption ?
Oui, parce que quand le magma sort, il y a des micro-séismes qui se manifestent. Mais en ce moment, comme ça va très vite, c'est vrai que ça se passe quasiment en live. Si l'Etna devait changer de type d'éruption, si des éruptions devenaient latérales, il y aurait d'autres types de séismes, ça serait envisagé, ça serait prévu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que mes collègues disent qu'il n'y a pas de danger immédiat. Et bien sûr, ils ont raison.
Et on pourrait l'anticiper suffisamment à l'avance pour prévenir la population, si jamais il devait y avoir une évacuation, ça c'est possible ?
Oui, a priori ça se fait, mais parfois assez rapidement, ça peut être 72 heures avant ou quelques jours avant, hein, mais bien sûr il y aurait des changements complets de type de séisme, de profondeur, de localisation qui seraient sur un flanc de l'Etna, ce n'est pas d'actualité.
J'ai vu une étude qui est sortie il y a quoi, 2-3 ans qui dit que l'Etna s'enfonce peu à peu dans la mer, pourquoi ? Et est-ce que ça veut dire qu'un jour, on ne sera plus là, mais un jour il va disparaître ?
Bon, c'est très limité. Alors c'est vrai que l'Etna, il est au niveau de la mer. Le pied de l'Etna est au niveau de la mer, hein. Donc il y a des mouvements. Il y a une faille qui bouge aussi, mais c'est des mouvements qui sont de l'ordre du millimètre par an. Donc l'Etna a encore de beaux jours devant lui. On pense qu'il a pu être plus haut autrefois. Il a pu peut-être mesurer 4000 mètres. Mais avant de voir l'Etna disparaître, ça ne serait pas avant plusieurs centaines de milliers d'années. L'Etna a 500 000 ans déjà. Et il a encore plusieurs centaines de milliers d'années à vivre dans l'avenir.
Jacques-Marie Bardensef. Je rappelle que vous êtes vulcanologue, mais là c'est moins aux scientifiques que vous êtes qu'aux passionnés que je vais m'adresser pour la dernière question, parce que ce volcan, il a vraiment une aura particulière dans la mythologie. Il sert d'atelier au dieu du feu Vulcain. Il y a Alexandre Dumas et Maupassant qui en ont fait l'ascension et qui l'ont raconté dans des livres. C'est vraiment un volcan particulier.
Ah bah c'est vrai que pour nous Français c'est le volcan le plus proche, c'est le volcan de nos amis italiens, c'est une mythologie commune, c'est Vulcain qui épouse Vénus, donc volcan et beauté qui sont associés depuis le passé, depuis encore aujourd'hui, car c'est vrai que même si le spectacle est effrayant, il est attirant et les Italiens, les gens de Catane et des environs de l'Etna aiment leur volcan, il est toujours quelque part déifié.
Merci beaucoup Jacques-Marie Bardensa, vulcanologue, vous étiez l'invité du 5-7.
France Inter.